Le retour des avions d'Air Calédonie à Ouvéa. Un aller-retour entre la Tontouta et l'aérodrome d'Ouloup a eu lieu ce matin. Après 6 mois de blocage, un soulagement pour les habitants de l'île. Un incendie cette nuit à 1h30 dans les cuisines du restaurant All West à l'Orphelinat. Le bâtiment a été partiellement détruit. 5 engins et 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. 6 militants de la CCAT portent plainte contre 4 ministres ou anciens membres du gouvernement. Ils contestent leurs conditions d'arrestation et leur transfert en métropole en 2024. Le président et fondateur du MoDem, François Bayrou, et 10 autres prévenus rejugés pour détournement de fonds au préjudice du Parlement européen. L'ancien Premier ministre clame toujours son innocence. La visite du pape Léon XIV à Paris, Lourdes et Metz, suscite un enthousiasme exceptionnel. 1 million de personnes est attendu pour la grand-messe du samedi 26 sur la place de la Concorde à Paris, où les préparatifs ont débuté. Et puis le sport et le football, poussif en championnat, explosif en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a parfaitement débuté sa campagne européenne en s'imposant ce matin 6-1 sur le Slovan Bratislava. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal qui se poursuivra avec les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Lionel.
Au sommaire aujourd'hui, Choose Outre-mer, c'est le premier sommet économique qui se tiendra à Paris, à la Banque de France.
Voilà, vous avez tout dit, ce sera le thème de ce jeudi de l'économie Choose Outre-mer qui se tiendra le 1er octobre avec pour objectif d'attirer les investissements et de relancer la création de richesses dans les territoires ultramarins. Un sommet qui a été annoncé récemment par la ministre des Outre-mer, Naïm Mamoudchou. Et nous en parlerons ce midi avec 3 invités. Nous serons en compagnie de Christopher Gigès, le vice-président du gouvernement en charge de l'économie, de Bertrand Courte, le président du MEDEF-NC, et du chef d'entreprise Pierre Kraft. Avec eux, nous verrons ce que la Nouvelle-Calédonie attend de ce sommet économique, comment elle va y participer et quelles en sont les retombées possibles. On se retrouve après votre journal pour ce jeudi de l'économie consacré au sommet économique Choose Outre-mer.
À la une ce midi, Air Calédonie qui a donc retrouvé le tarmac de l'aérodrome d'Ouloup à Ouvéa. Après 6 mois de blocage dû au déménagement des activités de la compagnie domestique de Magenta à Tontouta, un ATR d'Air Cal a donc effectué ce matin un premier aller-retour entre la Tontouta et Ouvéa. L'avion a décollé un peu avant 9h40 de la Tontouta avec 10 de passagers à bord et s'est posé sans encombre 30 minutes après à Ouloup. Comme cela avait été annoncé hier, l'État a accompagné cette reprise du trafic aérien entre la Grande Terre et Ouvéa. Anaïs Saïd Mansour, directrice de cabinet du haut-commissaire.
Comme à chaque reprise de vol dans des aérodromes qui n'ont pas été desservis depuis un certain temps, voilà, on met toujours un petit dispositif. Ça a été le cas à l'île des Pins, ça a été le cas à l'Ifou et là à Ouvéa, voilà, pour assurer la sécurité publique. C'est un aérodrome qui appartient à la province des îles, donc qui s'assure de sa sécurité également. Voilà, mais nous, on est là dans une posture d'accompagnement, voilà, pour accompagner la décision qui a été prise par Air Calédonie et le gouvernement de réouvrir les vols à la suite d'une demande des coutumiers d'Ouvéa.
Et après l'île des Pins et l'Ifou, c'est donc Ouvéa qui voit reprendre les rotations d'Air Cal. Un soulagement évidemment pour les habitants de l'île et notamment pour Didis qui militait depuis plusieurs mois pour la reprise des rotations.
Pour la première rotation, elle était très contente après les 6 mois de souffrance déjà qu'on a vécu. Et là, en voyant l'avion arriver, on était tellement joyeux, mais même avec beaucoup d'émotion aussi, tu vois, l'avion qui atterrit. Et puis en même temps, avant ça, 1 heure avant, on était avec le collectif pour parler du déblocage. Et ça s'est très bien passé au niveau de la discussion et pareil, bien terminé avec la coutume, quoi. Un souffle nouveau, ça c'est bien, parce que ça y est, tout le monde est content. On va pouvoir circuler tranquillement pour prendre l'avion. Et même, pareil aussi pour la santé, surtout au niveau sanitaire. C'était plutôt ça pour eux, quoi, que ça a été très dur, quoi.
Les propos recueillis ce matin par Léo Fichou, la compagnie domestique devrait maintenant recaler un programme de vol dans les tout prochains jours, après ce premier aller-retour qui s'est donc déroulé sans problème entre la Tontouta et Ouvéa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 6 mois après le déménagement d'Air Cal à Tontouta, et alors que certains coutumiers souhaitent que les vols atterrissent à Ouvéa, 53% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'on va arriver à une normalisation de la situation et une reprise de la desserte des îles Loyauté. Ils sont 47% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Les résultats des élèves français au test international PISA sont jugés préoccupants. Les élèves Calédoniens ne sont pas pris en compte dans ce test. Selon vous, leur niveau est-il meilleur que celui des autres élèves français? Si vous pensez que le niveau des élèves calédoniens est meilleur, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Au chapitre des faits divers, un incendie a ravagé la nuit dernière une partie du restaurant Le West à l'Orphelinat. L'établissement est désormais fermé pour une durée indéterminée, Léo Fichou.
Oui, le feu s'est déclaré vers 1h30 du matin dans les cuisines du restaurant. 5 engins, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pendant plus de 3 heures pour maîtriser les flammes. Le bâtiment a donc été partiellement détruit. Sur les réseaux sociaux, l'équipe du West annonce une fermeture pour une durée indéterminée. Remercie également les nombreux clients qui ont témoigné leur soutien depuis ce matin. Selon les pompiers, l'origine du sinistre serait probablement accidentelle, mais elle doit encore être confirmée. Une enquête a été ouverte.
Dans l'actualité de ce jeudi également, le coup de com' des avocats de 6 militants de la CCAT. Selon une information de Mediapart, ils ont porté plainte devant la Cour de justice de la République contre 4 ministres ou ex-ministres pour dénoncer les conditions de leur arrestation en Nouvelle-Calédonie en juin 2024 et leur transfert en prison en métropole, Elisabeth.
La plainte vise 4 ministres ou anciens ministres qui étaient en fonction au moment des violences insurrectionnelles de mai 2024. Il s'agit de Gabriel Attal, qui était Premier ministre, de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, d'Éric Dupond-Moretti, qui était ministre de la Justice, et enfin de l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, qui était à l'époque ministre des Armées. Selon les avocats de ces 6 militants de la CCAT, le gouvernement avait décidé de leur transfert bien avant que la justice ne l'ordonne. Il demande donc que les ministres soient poursuivis pour acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle, abus d'autorité aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions. La plainte a été déposée devant la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, la seule juridiction qui puisse juger des membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est cette commission qui doit décider de la suite à y donner, mais tout laisse à penser qu'elle n'aboutira pas. Selon un juriste, les mesures de transfert et de privation de liberté sont prises in fine par les juges, et même si l'autorité judiciaire avait exaucé une volonté de l'exécutif, cela ne ferait pas des ministres des responsables. Et puis il faut ensuite relever que la Cour de justice est saisie de milliers de plaintes et qu'elle ne donne suite que dans très peu de cas. Il s'agit en fait d'agitation médiatique de la part des avocats des 6 militants de la CCAT, dont le président du FLNKS, Christian Théin, alors que le parquet a fait appel du non-lieu général ordonné début juin par des juges d'instruction parisiens.
Il est 11h39, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Dans un instant, on continue de dérouler l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez être parfaitement informé avant de prendre vos décisions, vous avez besoin d'être accompagné par des experts, vous voulez être entendu et défendu auprès des institutions et élargir votre réseau, rejoignez la première organisation patronale du territoire sur www.medef.nc. Depuis 1936, avec le MEDEF Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes jamais seul.
Tu as entre 15 et 30 ans et un message à partager?
La ville de Nouméa a lancé un appel à candidature pour son concours d'éloquence. La parole est à toi.
Seul ou en duo, relève le défi de la prise de parole en public.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 septembre. Infos et formulaires d'inscription sur www.nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
J'ai envie d'un Burger King. J'ai vraiment pas envie de bouger.
Nidit,
commandez.
Déjà?
Maintenant livré avec Nidit. Commandez sur www.nidit.nc.
Burger King.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Et c'est le nouveau président du Sénat coutumier, Richard Porariwa, qui était notre invité du matin à 7h30. Il a été désigné le 29 août dernier au terme du 26e congrès du Pays Kanak pour succéder à Ludovic Boula. Le nouveau président représentant de l'ère coutumière, Paichi Chimui, a été interrogé sur la façon dont il envisage ses fonctions et sur les projets pour la prochaine mandature 2025-2026.
C'est une préoccupation majeure. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, que c'est surtout le problème qui va se poser, c'est le déplacement des populations, justement. C'est vrai qu'on peut parler des moyens pour, par rapport au déplacement, les infrastructures primaires, tout ça, mais je crois que le plus important, c'est préparer la mentalité au niveau de gens pour ce déplacement.
Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conflits coutumiers, claniques qui sont nés du déplacement des populations. C'est quelque chose que vous craignez aujourd'hui, qu'une population du bord de mer soit déplacée quelque part ?
Je crains beaucoup, parce que justement, comme vous le disiez, on a subi ça. Aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, je dirais qu'on va subir un deuxième traumatisme. Les gens entre nous, comme vous le disiez, au niveau de la côte, avec les problèmes fonciers qui se sont entretenus, tout ça, il va falloir régler. Donc, il y a aussi l'autre partie que j'ai toujours dit. Je crois que nos familles d'Ouvert, pour moi, vont être les premiers réfugiés climatiques.
Le Sénat qui compte travailler sur les sujets du quotidien dans cette mandature est resté, je cite, dans son couloir coutumier. Mais il note que plusieurs chefferies sont engagées aujourd'hui dans des conflits, notamment concernant le déménagement d'Air Calédonie à Tontouta. Pour lui, chaque district décide de ses actions et le Sénat coutumier n'a pas de rôle à jouer sur ces questions.
Il y a une spécificité de chaque aire coutumière. Des problématiques qui sont peut-être à un moment donné ensemble, mais il y a des spécificités. Donc on laisse à l'appréciation de la gestion de chaque... Nous, on n'est que consultatif et on n'est que le porte-parole. Mais les vrais pouvoirs de décision appartiennent, comme je disais, aux structures de base, que sont les chefferies.
Donc le Sénat coutumier n'a pas de mot d'ordre à donner dans ce genre de choses. Chacun est libre, finalement, et souverain de faire ce qu'il veut.
Surtout pas, comme je vous disais, il n'est que le porte-parole de ces autorités-là. Donc il doit amener les choses à son niveau, mais dans ces problématiques-là, dans ces situations-là, nous, on essaie toujours d'essayer d'harmoniser, de calme, d'essayer de trouver un peu de sérénité quoi, dans tout ça, parce qu'on a vraiment aujourd'hui de sérénité, surtout par rapport à ce qui nous touche. Quoi.
Richard Poirier-Roy, qui était notre invité du matin à 7h30, interview à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. Quelles actions met en place la province sud pour protéger son environnement ? Cette question est au cœur de plusieurs visites de terrain organisées aujourd'hui dans le cadre de la 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature, Léo.
Cela fait près de 30 ans que les provinces sont compétentes en matière d'environnement et entre les parcs provinciaux à Nouméa, la Rivière Bleue, à Farino, la collectivité subventionne aussi des établissements comme l'Aquarium des Lagons. Une visite était organisée ce matin à laquelle a participé des ONG mais aussi des représentants de territoires du Pacifique, parmi eux Terena Argus, agente de la direction de l'environnement de Polynésie française.
Donc ici, vous avez le laboratoire de production de micro-algues. C'est les fameux mélanges d'algues avec lesquels on va enrichir tous les bassins quotidiennement.
On a des centres de soins en Polynésie, mais on n'a pas d'aquarium. Donc là, c'est vraiment impressionnant de voir les coulisses, en fait, et tout ce que ça représente comme travail pour l'entretien des bassins, l'alimentation des animaux, la zone de quarantaine, l'élevage des espèces, etc. C'est passionnant. Quand j'entends qu'effectivement, ils les relâchent ensuite, ils font un suivi dans le milieu naturel, c'est toujours intéressant. Mais je pense que là où c'est le plus important, c'est l'aspect sensibilisation des populations sur le milieu marin. Donc oui, ce serait intéressant qu'on en ait en Polynésie. Mais la question que je vais poser, c'est comment est-ce que c'est financé tout ça ? Parce que les coûts de fonctionnement doivent être quand même assez importants.
Les coûts de fonctionnement sont effectivement importants. L'aquarium, qui est un syndicat mixte, bénéficie de financements majoritairement de la mairie de Nouméa, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud. Cette dernière y consacre 65 millions de francs par an, en plus de son réseau échouage qui est très actif. La visite de la délégation continue cet après-midi à l'Ilomètre, où Georges va retrouver la mer. Georges, c'est une tortue verte de 123 kilos qui a été recueillie le 16 juin par les équipes de l'aquarium, dont fait partie la soigneuse Marion Bossin. Le mâle reproducteur avait été percuté par une hélice de bateau, puis mordu par un requin.
On a eu de la chance parce que en fait, la carapace n'était pas très abîmée. Donc grâce au docteur Isabella Lac, notre vétérinaire qui est intervenu dessus, les palettes natatoires postérieures étaient complètement déchiquetées et le docteur a fait un très beau travail de suture. Et là, c'est beaucoup mieux quand même, ça a très bien cicatrisé et avant, c'était vraiment des lambeaux. Et grâce à nos soins, hein, qui sont tous les jours, on nettoie les plaies, des antibiotiques, Georges est sauvé et tiré d'affaire. Et même s'il lui reste quelques cicatrices, il cicatrisera bien en mer.
Ce matin, d'autres participants du forum ont pu assister à un relâcher de cagou au parc de la Rivière Bleue. D'autres visites sont organisées à Bouraï et à Dimbéa.
11h46 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Devenez partenaire du CIPAC Challenge, l'événement qui fait marcher les Calédoniens. Du 5 au 19 octobre, des milliers de Calédoniens se retrouveront par équipe de 5 pour faire le plus de pas possible et remporter des défis quotidiens. En 2025, le challenge avait réuni plus de 3000 participants, 700 équipes et 250 entreprises, institutions et associations. Si vous souhaitez associer votre entreprise ou votre marque au CIPAC Challenge et profiter de la visibilité de l'application, contactez-nous sur cipac-du6challenge.nc. CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
En Nouvelle-Calédonie, la protection de l'environnement est une responsabilité provinciale. En province sud, cette responsabilité se traduit chaque jour par des aires protégées, un code de l'environnement, des gardes nature, des espèces protégées ou encore la préservation du lagon. Parce que protéger notre patrimoine naturel, c'est agir aujourd'hui pour demain. Province sud, la nature en action.
La province sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal L'Actualité en Métropole avec Lionel Sabot.
Et deux mois après la nouvelle condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, c'est un dossier similaire qui est étudié devant la Cour d'appel de Paris. Le président et fondateur du MoDem, François Bayrou, et 10 autres prévenus sont rejugés pour détournement de fonds au préjudice du Parlement européen. L'ancien Premier ministre, relaxé en première instance, clame toujours son innocence. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Petit sourire aux lèvres et salutations chaleureuses. François Bayrou est arrivé détendu à la Cour d'appel de Paris. L'avocat général lui reproche pourtant d'avoir détourné des fonds publics en embauchant des assistants parlementaires fantômes. Des accusations balayées par l'ancien Premier ministre.
Toutes ces accusations, on va le prouver, sont infondées. Et le jugement en première instance l'a dit. Je suis profondément confiant que la Cour d'appel va prendre en compte les mêmes éléments et confirmer le jugement.
Pourtant, la victoire semble encore lointaine pour François Bayrou. Dès l'ouverture, une de ses alliées, l'eurodéputé Anne Lapérouse, renonce à son appel et accepte sa condamnation à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. La présidente rappelle ensuite que les juges d'instruction accusent le MoDem d'avoir organisé ce système de longue date, même si François Bayrou a été relaxé en première instance au bénéfice du doute. Savait-il ou non, toute la question est là. Les débats se poursuivront jusqu'au 2 octobre avant un verdict qui pourrait être cette fois-ci bien différent du premier.
Alexis de la Fontaine du service police-justice d'Europe 1. Le successeur de François Bayrou à Matignon, Sébastien Lecornu, dévoile lui petit à petit ses arbitrages en vue du prochain budget de l'État. Le Premier ministre s'engage dans un courrier aux entrepreneurs à diminuer la contribution sur les bénéfices des grandes entreprises l'année prochaine. Autre promesse, la sanctuarisation des aides en faveur de l'apprentissage. Et dans un souci d'exemplarité, le chef du gouvernement n'exclut pas de réduire les indemnités des ministres. Les débats budgétaires qui vont s'ouvrir dans un contexte explosif marqué évidemment par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le gaz européen flambe, les cours du pétrole également. Le baril de Brent est repassé ces dernières heures au-dessus de la barre des 100 dollars. Pour autant, le gouvernement refuse toujours d'aller plus loin dans les aides. Barthélémy Philippe.
Un litre de gazole qui flirte avec son record historique à 2,29 euros. Un sans-plomb 95 E10 plus haut que jamais à 2,12 euros. Conséquence de cette flambée des prix, la consommation baisse moins 5,5% depuis le début de la crise par rapport à la même période l'an dernier. Les automobilistes sont pris à la gorge et le gouvernement semble impuissant. Ce matin, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs, Bercy a évoqué une enquête en cours sur les marges des raffineurs et confirmer la prolongation du chèque carburant de 100 euros jusqu'à la fin du mois pour les grands rouleurs. Pour le reste, le gouvernement refuse toujours d'envisager un blocage des prix à la pompe et reconnaît qu'une baisse de la fiscalité des carburants est incompatible avec la situation dégradée des finances publiques. À ce stade, les automobilistes en quête d'économie n'ont d'autre choix que de faire le plein dans les stations Total Énergie qui plafonne le prix de l'essence et du diesel.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'extrême gauche continue de faire payer à la DJ Barbara Butch son soutien à la loi Yadan contre l'antisémitisme. Après l'interruption d'un concert à Grenoble au mois de juillet, une soirée électro à laquelle devait participer l'artiste le 19 septembre prochain est annulée. Ça se passe cette fois-ci à Amiens. Les organisateurs estiment que les conditions nécessaires à la sécurité du public ne sont plus réunies. L'association France-Palestine Solidarité, à l'origine d'appels au boycott, crie victoire après cette décision. La consternation à Carcassonne dans l'Aude après la révélation d'une vidéo tournée accidentellement par la caméra piétonne d'une patrouille de police municipale. Dans cette vidéo révélée par le quotidien régional Midi Libre, le policier municipal enregistré sans le savoir avec la caméra piéton tient des propos discriminatoires.
Là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, au mois de décembre, la zone, elle s'interre, là. Parce qu'avec les forains, tu vois, les punks à chiens et les bougnoules, ils aiment pas ça, ils règlent ça entre eux.
Une vidéo qui fait polémique, car l'un des policiers de cette patrouille est encarté au Rassemblement National et que la mairie a été gagnée par le Rassemblement National il y a quelques mois pour le nouveau maire Christophe Barthès. Il explique pour sa part qu'il s'agit d'une fausse controverse puisqu'il n'était pas au courant de ces agissements et pour cause, ils se sont produits pendant le mandat de son prédécesseur.
L'ancien maire d'hiver droite, soutenu par Gabriel Attal et le Parti Socialiste, les deux listes ayant même fusionné au second tour des municipales, était aux responsabilités au moment de cette affaire. L'ancienne équipe municipale a volontairement mis sous le tapis cette affaire en pleine campagne électorale.
Le maire de Carcassonne qui a annoncé la suspension immédiate de ce policier municipal. Le Rassemblement National l'a quant à lui exclu du parti. La visite du pape Léon XIV à Paris, Lourdes et Metz du 25 au 28 septembre prochain suscite un enthousiasme exceptionnel. Le point d'orgue de ce week-end historique, ce sera la grand-messe du samedi 26 septembre sur la place de la Concorde à Paris. Jusqu'à 1 million de personnes attendues. Alors forcément, le défi logistique est colossal. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Chaque jour, 8000 personnes s'inscrivent sur Internet pour participer à la messe géante à Paris. Le pape présidera la cérémonie à la Concorde depuis une immense scène installée pour l'occasion, explique le général Hervé Watkan qui coordonne la visite papale à Paris.
Pendant une heure et demie, on verra le pape sur ce podium, à l'hôtel, etc. Donc on a voulu faire un geste architectural qui rappelle Paris. Paris, c'est quoi ? C'est Notre-Dame de Paris. Et Notre-Dame de Paris, c'est quoi ? C'est ses vitraux, c'est la rosace. Donc à chaque endroit, vous aurez une rosace qui sera stylisée pour bien montrer qu'on est à Paris et qu'on est autour de Notre-Dame de Paris.
Des écrans géants seront installés sur les Champs-Élysées pour permettre au plus grand nombre de suivre la célébration. Rien n'est laissé au hasard pour accueillir cette foule exceptionnelle.
On a commandé 2500 sanitaires et le coût des sanitaires, c'est 1 million d'euros. Et puis il y a les points d'eau aussi. Il faut donner de l'eau aux personnes, etc., etc.
Et puis il y a le défi de la communion. Selon les informations d'Europe 1, des centaines de milliers d'hosties devront être consacrées lors de messes célébré avant la venue du pape, puis distribué le jour J. 2800 points de communion sont prévus pour permettre aux fidèles de recevoir le corps du Christ.
Un reportage signé Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Il est 11h54. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Du 7 au 13 septembre.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je retiens les dates par cœur de l'anniversaire de Centracor. Ah, j'ai trop peur de louper ça.
Mais détends-toi, moi je suis pas prête d'oublier. Centracor fête ses 3 ans, alors préparez-vous à être gâtés. Une semaine de promotion, animation et jeux. Rendez-vous dans nos deux magasins, Dembéa Mall Green Mutel ou Nouméa Motorpool. Plus d'infos, Facebook Centracor NC.
Ils seront là, les célèbres Bères de Boncoul. Ce dimanche, retrouvez-les au Grand Marché de Mamie devant la mairie de Farino de 8h à 13h30. Un programme particulièrement alléchant puisqu'une manche du championnat de Nouvelle-Calédonie de barbecue précédera dès 10h l'incontournable moment gourmand, la dégustation des Bères de Boncoul crus après fouillage et cuits si le cœur vous en dit. Une expérience unique, pleine de curiosité, de tradition et de saveurs bien de chez nous. Au programme également, produits du terroir, artisanat local et plantes, animation et musique pour une ambiance garantie. Alors venez vivre cette tradition en famille ou entre amis, venez découvrir, goûter, rire et partager ce dimanche, direction Farino. Les Vers de Boncoul vous attendent au Grand Marché de Mamie.
Et si les écrans prenaient un peu trop de place dans nos vies ? Découvrez La Famille Tout Écran, un spectacle de théâtre drôle et touchant à découvrir en famille dès 5 ans. Suivez Léa, une petite fille pleine d'imagination qui découvre peu à peu les pièges et les dangers du monde numérique. Rendez-vous samedi 12 septembre à 16h au Petit Théâtre du Mont d'Or. Tarif à partir de 1600 francs sur loisirs.mont-d'or.nc. Un spectacle de la compagnie L'Équidame avec le soutien de la ville du Mont d'Or. Renseignements au 41 90 90.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football et la suite ce matin de la première journée de la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain, double tenant du titre qui faisait son entrée dans la compétition. Au Parc des Princes, les Parisiens recevaient les Slovènes du Slovan Bratislava. Les Slovènes qui n'ont pas fait le voyage pour rien jusqu'à Paris, puisqu'ils ont quitté la capitale sur une cinglante défaite avec un triplé de Ferran Torres, un doublé d'Ousmane Dembélé et un but de Fabian Ruiz. Le PSG s'impose 6 buts à 1. Satisfaction également, évidemment pour l'entraîneur parisien Luis Enrique, littéralement impressionné par Ousmane Dembélé.
Aujourd'hui, je pense que le joueur qui m'a surpris encore de plus, c'est Ousmane Dembélé. Quelle intensité, avec le ballon, sans le ballon, comme d'habitude. Quand j'ai vu cet Ousmane Dembélé, pour moi, c'est un vrai plaisir. Et je profite de le voir tous les jours avec cette ambition qu'il a montré les trois dernières années.
Les autres résultats de la matinée avec Arsenal qui est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Naples. Liverpool a bataillé pour venir à bout de l'Atlético Madrid. Score final à 2-1 pour les Reds. Le FC Barcelone s'est imposé 5-1 sur le Feyenoord Rotterdam. Enfin, victoire des Allemands de Stuttgart face aux Norvégiens des Vikings. Score final 3-1. La suite de cette première journée demain matin avec l'entrée en lice cette fois-ci de Lens, les Lensois qui seront en déplacement sur la pelouse des Tchèques du Slavia Prague. Le cyclisme, on courait la nuit dernière la 17e étape du Tour d'Espagne. Insatiable, Matthew Brennan a signé son 5e succès sur ce Tour d'Espagne, une manita comme on dit en Espagne, qui porte à 7 le nombre de victoires de la formation Visma Liseberg sur ce Tour d'Espagne. Le jeune Britannique de 21 ans a devancé au sprint le Belge Jordi Meus et le Danois Magnus Kortnielsen. Au classement général, c'est toujours l'Espagnol Enric Mas qui est en tête avec 2 minutes et 6 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 2 minutes 10 sur le Slovène Primož Roglič. À suivre demain, évidemment, la 18e étape contre la montre individuelle de 32 km entre El Puerto de Santa Maria et Jerez de la Frontera. Olé. Du handball au féminin, l'IHF Trophy Senior débute aujourd'hui, une compétition organisée en Nouvelle-Zélande. 16 calédoniennes seront sur les terrains kiwis. La première rencontre opposera notre sélection aux joueuses de Kiribati ce soir. Parmi nos représentantes, il y aura notamment Olivia Vaitanaki, ancienne joueuse professionnelle, responsable du pôle espoir, qui va retrouver les terrains pour tenter d'aller chercher de l'or.
C'est une première édition en fait de l'IHF Senior Femmes. C'est vraiment important de développer le sport féminin et à haut niveau dans notre région. Donc là, on est très contente avec cette opportunité de relancer la pratique féminine et puis surtout des femmes. C'est une nouvelle image pour nous, c'est un nouveau challenge et voilà, l'équipe femme est prête à le relever et voilà, ils ont fait tous les efforts nécessaires pour y arriver. L'idée, c'était vraiment de prendre pas celles qui ont déjà participé aux IHF Trophy plus jeunes, de relancer cette pratique féminine. Il y a des jeunes de 22 ans, mais il y a aussi voilà, plus âgés à 46 ans. Donc c'est un beau mélange d'expérience et de dynamisme avec différentes mentalités. Donc c'est vrai que ça a été une belle préparation avec une belle équipe qui a vraiment une belle image aujourd'hui. C'est une vraie belle mixité au sein de notre pratique. Voilà, on est fiers de représenter tout ça.
Et les jeunes catégories d'âge ont réussi l'exploit de gagner les dernières éditions de l'IHF Trophy. Chez les messieurs comme chez les dames, maintenant les seniors vont tenter de les imiter. Le premier match contre les Kiribati sera à suivre ce soir à partir de 19h30. Il est midi sur Radio Rythme Bleu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous restez avec nous dans un instant. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, Elisabeth Noir et ses invités parleront du premier sommet économique Choose Outre-mer qui se tiendra à Paris au mois d'octobre à la Banque de France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.